Bah, ça en fait du matériel. Tu t'entraînes pour les Jeux Olympiques ou quoi?
Mais non, Mimi, je prépare mon summer body.
Ouais, fais bien ce que tu veux. Moi, j'écoute l'agité du local.
Que faites-vous le 9 juin? Notez-le bien. Vous serez appelés à voter pour élire vos représentants qui siégeront au Parlement européen. Pour cette occasion, Radio Fidélité et l'autre radio s'associent en invitant des représentants de chacune de ces listes à répondre à nos questions. L'agité du local de cette semaine sera justement consacrée à ces interviews. Nous avons voulu connaître le positionnement de chaque liste candidate sur des enjeux actuels. Lucie, nous pouvons compter maintenant sur nos doigts le nombre de jours qui te restent dans cette émission. J'ai le plaisir de t'avoir encore un peu à mes côtés. Bonjour à toi.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
On t'écoute tout à l'heure pour l'actu en bref et pour un point météo. Dans la suite de cette émission, c'est Hervé Richoux qui nous emmène du côté de Château-Gontier pour nous donner toutes les informations concernant le passage de la flamme olympique dans le sud Mayenne le 29 mai. À son micro, Vincent Saulnier, président de la jeunesse et des sports pour le pays de Château-Gontier. L'émission se terminera avec Donatien qui nous emmène un peu faire les courses, je crois. Il a cette capacité de tout transformer en voyage, même les rayons des grands magasins. Merci Donatien pour ça. Bienvenue amis auditeuristes dans l'agité du local, je suis Margot et on commence tout de suite cette émission avec notre première interview consacrée aux élections européennes.
Le 9 juin, une vingtaine de listes seront en lice pour les élections au Parlement européen. En collaboration avec l'autre radio, nous avons choisi de donner la parole aux candidats. Aujourd'hui, Jean-Frédéric Poisson représente la liste « L'Europe, ça suffit » menée par Florian Philippot. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes troisième sur cette liste.
Oui.
Vous êtes un ancien de Reconquête. Alors, votre ralliement à Florian Philippot aujourd'hui, comment faut-il le comprendre?
Je ne suis pas ancien de Reconquête. Le parti que j'ai l'honneur de présider, via la Voix du Peuple, qui est un parti d'inspiration chrétienne sociale, avait choisi de soutenir Éric Zemmour il y a 2 ans au présidentiel parce que les enjeux de civilisation nous paraissaient être, et nous paraissent toujours d'ailleurs, être la bonne porte d'entrée si on veut envisager le redressement de notre pays. La politique n'est pas qu'affaire de gestion, de chiffres, de tableaux de bord, c'est aussi une affaire de culture, de patrimoine, de langue. Et donc il nous semblait qu'Éric Zemmour était le seul à avoir cette vision de notre pays. Nous l'avons suivi à cette occasion. Et puis, à l'occasion de ces élections européennes, il nous est apparu que les urgences du temps, le fait que la Commission européenne devienne une espèce de canard sans tête, et que l'Europe ait échoué à peu près sur toutes les promesses qu'elle avait faites aux Français, le fait que nos libertés soient attaquées sans cesse, le fait qu'on nous emmène vers la guerre à grands pas avec une espèce de légèreté qui me confond, le fait que nous soyons attachés à la défense de notre modèle social, le fait que nous voulions poser, à minima, poser la question aux Français de savoir s'ils doivent rester dans l'Europe, tout ça sont des thèmes qui n'intéressent pas Reconquête et ses représentants. Donc nous avons naturellement fait une liste de coalition avec les gens que ça intéresse, c'est-à-dire les patriotes de Florian Philippot, Génération Frexit et quelques autres résistants.
Alors justement, dans votre profession de foi et le titre de votre liste, hein, l'Europe ça suffit, l'indique clairement, vous mettez en avant le souhait de sortir de l'Union européenne et également de l'OTAN. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal de vouloir rentrer dans une institution que l'on récuse et dont on cherche la dissolution? On vous la pose tout le temps cette question. Mais...
Non, alors pas tout le temps, elle est parfaitement légitime. Il se trouve que, à minima, le Parlement européen, alors il a beaucoup moins de prérogatives que le Parlement national. Les Français doivent comprendre que l'Assemblée nationale, par exemple, où j'ai siégé pendant quelques certain nombre d'années, a une initiative législative pleine et entière, a un pouvoir de censure du gouvernement et un pouvoir de contrôle de l'action publique. Aucune de ces 3 prérogatives n'est conférée au Parlement européen. Donc c'est un organisme qui veut installer petit à petit l'idée qu'il y aurait un État européen, parce qu'il y a un peuple européen, puisqu'il y a une démocratie européenne, la meilleure preuve, c'est qu'il y a un Parlement.
Élu au suffrage universel.
Élu au suffrage universel. Donc cette idée-là se propage et on confère au Parlement européen de temps en temps des choses qui ne sont pas dans son giron et dans ses pouvoirs, dans ses capacités d'action. Alors pour autant, siéger au Parlement européen, ça veut dire, comme dit le petit prince de Saint-Exupéry, si tu veux être entendu dans ce monde, il faut avoir une robe. C'est une forme d'accroissement de légitimité et donc chaque citoyen est légitime à prendre la parole dans l'espace public, ça va sans dire, mais quand on a un mandat qui est confié par nos électeurs et nos concitoyens, puis on a davantage de capacité à le faire et davantage de capacité en voyant les choses de l'intérieur à dénoncer les choses qui ne vont pas. On voit bien les dérives que la Commission européenne en particulier a connu, pas que la Commission, le Parlement, je parle d'affaires de corruption, je parle d'usurpation de droits, je parle de non-respect des traités, enfin des tas de choses qui se passent dans ce giron européen que les Français regardent de loin, mais malgré tout qui concernent leur vie quotidienne. On a bien compris par exemple qu'à l'occasion de l'affaire des vaccins, les 35 milliards d'euros de vaccins commandés par Mme von der Leyen par SMS, je ne sais pas si les gens se rendent compte, ça doit être le contrat, le rapport montant du contrat à centimètres carrés de papier le plus élevé de toute l'histoire de l'humanité, cette affaire. Ça, par exemple, ça fait partie des choses qui sont les dérives de l'Europe qu'on peut condamner d'ici.
De quoi ? Que ça a été fait par SMS hein, ou qu'il y a eu ce contrat passé ?
Par SMS, d'abord, la forme est quand même plus que douteuse. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a l'opportunité. Et puis la décision politique comme telle qui ne relève pas des tribunaux, ce qui relève des tribunaux, ça nécessite des alertes. Et les parlementaires européens doivent à minima être des lanceurs d'alerte, des gens qui dénoncent, des gens qui accompagnent aussi les projets que un certain nombre de collectivités, d'associations, de territoires en France peuvent avoir. Puis il y a des fonds européens qui peuvent être destinés à nos territoires, mais que nos auditeurs aient bien en tête, nous versons 28 milliards d'euros par an au budget européen, nous en récupérons 13. Donc on en perd 15 dans l'affaire. Donc sortir de l'Union européenne, ça voudrait dire d'abord et avant tout, ça commençait par faire 15 milliards d'économies par an. On en fait des choses avec 15 milliards d'économies par an, en particulier on finance l'intégralité de la politique agricole.
J'allais vous demander justement la principale priorité de votre parti pour l'Union européenne dans les 5 prochaines années. Est-ce que justement c'est l'agriculture ou est-ce que c'est d'abord la reconquête hein, si je peux employer ce terme, ça devient compliqué. La reconquête de la souveraineté française.
De toute façon, il y a deux impératifs qui sont les deux piliers de notre liste. Nous assistons à une mise en danger de nos libertés individuelles comme collectives sans précédent depuis quelques années. Le pouvoir national français y a mis sa part. Je parle de la censure, je parle des futures mécaniques de passe sanitaire ou de passe vaccinal européen, des projets qui sont en cours. Je parle du numéro d'identité unique européen qui est encore un système qui permettra la surveillance renforcée de nous tous. Je parle de la suppression de l'argent liquide qui va
pourquoi,
aussi être...
Pourquoi est-ce que toutes ces mesures-là nous priveraient de liberté en fait
Parce que ça peut être une question de sécurité Ça peut, mais on a bien vu avec l'expérience de la crise Covid que c'était très exagéré et assez largement disproportionné par rapport à l'état actuel des choses. Et ne prenons que l'affaire de l'argent liquide, par exemple. Il est clair que l'argent liquide est une manière de pouvoir opérer des transactions, en restant dans la sphère privée qui ne regarde que vous et moi, ou si nous faisons un échange à partir du moment où les choses sont numérisées, traçables, elles sont tracées et on entre petit à petit dans un système de surveillance généralisée qui est rendu possible par la conjonction de la puissance d'un certain nombre d'opérateurs financiers et capitalistes d'un côté et la puissance de la technologie de l'autre côté. On voit bien le monde qui se prépare. Et nos libertés là-dedans sont rabotées à chaque fois qu'on considère que les circonstances le permettent. La dernière chose en date, c'est l'affaire du QR code pour rentrer chez soi. Pour un certain nombre de Parisiens qui vont devoir montrer une pièce d'identité, un QR code, pour rentrer chez eux. Et pas pour accéder au coffre de la Banque centrale, pour rentrer chez eux.
Oui, là, on peut invoquer, comme ça a été fait, des questions de sécurité, lutte antiterroriste.
Oui, mais vous savez, il y a un moment où la lutte contre la sécurité ne justifie pas toutes les privations de liberté. Ne justifie pas qu'on fasse des enquêtes systématiques administratives sur je ne sais pas combien de gens. Ne justifie pas que quand vous inviterez quelqu'un chez vous, il faudra dire à la police qui vient, pourquoi et jusqu'à quand. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Donc si on généralise ce système, et ne vous inquiétez pas, vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit non, madame, je suis désolé, vous avez des craintes infondées. Je me serais arrêté là parce que nous ne connaissons pas assez. Mais franchement, on nous aurait dit ça il y a 30 ans quand j'ai démarré ma vie politique. Si on m'avait dit que je passerais le plus clair de mon temps à défendre le maintien des libertés individuelles et collectives en France, j'aurais pas cru. Vous racontez des bêtises. Or, c'est ça qui est en danger aujourd'hui. La menace de la guerre, également portée par l'Union européenne, nous met dans une situation de danger indescriptible. Et si vous n'avez pas de liberté, pas de paix, vous pouvez faire toutes les politiques publiques que vous voulez. Elles sont inutiles.
Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous pensez que l'Europe peut avoir une position intéressante par rapport à la scène internationale, en sens continent, en Ukraine, en Géorgie, peut-être après-demain.
Oui, entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan,
par
etc.
Exemple.
Elle le devrait. Mais vous n'entreriez pas dans une opération de médiation si jamais vous considérez que le médiateur n'est pas neutre. Or, l'Europe ne pourrait avoir cette position de médiation et de garant d'un dialogue réel entre des belligérants que si elle-même n'était pas alignée systématiquement sur la position américaine. Ça nous a discrédité, cette affaire, dans le monde entier. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles, ce n'est pas la seule, nous avons beaucoup rencontré beaucoup de déboires en Afrique, c'est notre alignement systématique sur la politique de Washington qui n'est pas dans notre intérêt.
Jean-Frédéric Poisson, je suis désolée parce qu'on est obligé d'aller très très vite. Hein. Sur le plan économique, est-ce que vous pensez que l'Europe peut être un atout ou
Pour l'instant, elle ne l'est absolument pas. J'en veux pour preuve le fait qu'elle a provoqué d'une manière ou d'une autre, avec la complicité de nos dirigeants, le démantèlement d'à peu près les trois quarts des plus grands fleurons industriels de l'économie française depuis 20 ans. Les gens connaissent ces entreprises que nous connaissions tous, Framatome, Technip, Alstom, Alcatel, Saint-Gobain, Péchinet, enfin tous ces noms qui étaient dans nos oreilles, dont on était fiers quand on était petits, ont été démantelés sur injonction de la Commission. Et donc là aussi, nous devons retrouver, comme sur les questions migratoires, sur les questions économiques, notre souveraineté, tant que nous ne sortirons pas de l'Union européenne, nous ne pourrons pas assurer notre prospérité et notre sécurité.
Question climat ? L'Europe a un rôle à jouer ?
Oui, probablement, mais encore une fois, je pense qu'il y a suffisamment de ressources, en France, et suffisamment d'idées pour qu'on n'ait pas besoin de l'Europe qui n'a pas jusqu'ici joué un rôle majeur, et l'inventivité des Français est telle que je suis persuadé qu'on peut très bien s'en sortir tout seul.
Jean-Frédéric Poisson, merci. Je vous aurais bien posé une question aussi sur la fin de vie, puisque je sais que c'est un sujet qui vous touche beaucoup, mais hélas, le couperet est tombé.
Tant pis pour nous.
Merci beaucoup, Jean-Frédéric Poisson.
Merci.
Je rappelle que vous êtes en troisième position sur la liste L'Europe, ça suffit, conduite par Florian Philippot. Merci beaucoup.
Merci à Isabelle Rupin de Radio Fidélité pour le partage de cet entretien. Pour certains, ce mardi n'est pas la reprise du travail. Cette semaine, c'était déjà le cas lundi. J'avais quand même envie de vous passer un son qui donne le sourire, un peu de légèreté, s'il vous plaît, avec Max Rab. C'est du Britney, mais un peu autrement. Écoutez, c'est « Oops, I did it again ».
Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this: I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, oops, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Did it again to your heart, got lost in this game, oh baby. Oops, you think that I'm sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again. I played
Allez, après toute cette bonne humeur, c'est parti pour l'actu en bref. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2024, c'est la Saint-Constantin. Bonne fête à tous les Constantins. Mais c'est surtout les 180 ans de la naissance du douanier Rousseau. Vous savez, ce peintre né à Laval, porte Beucheresse plus précisément. Il s'est fait connaître à titre posthume pour ses toiles naïves, dont les plus connues représentaient des paysages de jungle. Voilà, donc joyeux anniversaire à lui aussi du coup. Et pour continuer les festivités, tout bientôt ce sera aussi les boucles de la Mayenne. Ça commencera ce jeudi 23 mai avec un prologue entre guillemets à Laval, puis trois journées de courses cyclistes vendredi, samedi et dimanche. Et cette année, la 49e édition va être l'occasion de tester des petites nouveautés, dont une étape phare samedi. Ce sera près de 210 bornes et 3500 mètres de dénivelé positif pour les coureurs. Des nouveautés, dont aussi un nouveau tracé, qui ont été concoctées pour intéresser les têtes d'affiche Benoît Conefroy, Marc Hirschi et Alex Zingel. Et manifestement, l'an dernier, ils n'étaient pas tout à fait satisfaits de la difficulté. Comme quoi, il y en a qui aiment avoir la vie dure. On était d'ailleurs, pour vous donner une petite idée du budget, l'année dernière, il était à 960 000 euros. Et cette année, on devrait passer le million. On se rend maintenant à Ambrières-les-Vallées et on remonte même un peu dans le temps puisque dimanche dernier, 2500 visiteurs se sont déplacés dans la soirée, place du château, et la petite pluie ne les a pas empêchés de venir applaudir les musiciens et musiciennes qui étaient venus ravir leurs oreilles, dont par exemple les deux duos Gaël et Joël et Même Pas Cap, puis aussi Station Caméléon. On termine maintenant à Entrammes. La municipalité a annoncé rechercher des personnes pour faire visiter les thermes gallo-romains cet été. Il s'agira d'un poste rémunéré qui ne sera pas à plein temps ceci dit et la commune souhaite prioriser les Entrammais et Entrammaises, bien que le poste soit ouvert à tous. L'objectif de ce recrutement est de pouvoir ouvrir à minima les vendredis, samedis et dimanches après-midi, mais s'il y a suffisamment de monde, pourquoi pas ouvrir plus largement. Pour faire acte de candidature, il vous faudra vous rendre à la mairie d'Entrammes située au 1 rue Rosendal ou bien utiliser le formulaire de contact sur le site de la ville. Et côté météo, chers auditeurs, aujourd'hui les températures sont assez stables avec 16-18 degrés, puis plutôt 16 degrés ce soir et 11 degrés dans la nuit. Mais dans le ciel, ce sera mi-figue, mi-raisin, puisqu'en début d'après-midi, il sera couvert et il devrait y avoir quelques pluies éparses, surtout dans le sud du département. Ce soir, le ciel sera bien dégagé et cette nuit, les nuages seront de retour. On espère que ça ne sera pas pour nous jouer un mauvais tour, même s'il fera très nuageux demain matin avec 13-14 degrés. Nos fameux nuages sont censés nous laisser un peu de répit demain après-midi, avec des éclaircies partout sur les territoires qui s'accompagneront même de quelques 18-19 degrés. Mais bon, ça ne durera pas, les nuages reviennent dans la soirée et s'accompagneront de quelques 15-16 degrés. Allez, chers auditeurs, on ne dirait pas comme ça, mais l'été arrive, il faut y croire.
On se rend maintenant à Château-Gontier. Hervé Richoux a été à la rencontre de Vincent Saulnier, vice-président du pays de Château-Gontier en charge des sports, pour nous parler du passage de la flamme qui aura lieu le 29 mai dans notre département. Il nous parle plus précisément du parcours dans le sud Mayenne et des infos pratiques à connaître. Écoutez.
Le département de la Mayenne, mais aussi le pays de Château-Gontier, est une grande terre de sport. Nous sommes mobilisés depuis des mois et des mois pour cet événement. Évidemment, le temps fort du relais de la flamme est assez exceptionnel. On veut en faire une fête populaire, festive, qui met en avant le rassemblement. Et aujourd'hui, on a, je pense, largement besoin du vivre ensemble. Et quel merveilleux symbole que ce relais de la flamme, qui va lancer la dynamique des Jeux jusqu'à son ouverture le 26 juillet prochain. À Paris. Le parcours, donc, c'est sur une séquence qui va commencer à 9h15 à compter donc, de l'écluse de Pendu, sur une séquence sur l'eau jusqu'au quai d'Alsace, en sachant que j'indique qu'on aura malheureusement interdiction d'accès au chemin du halage. En revanche, on pourrait être sur le contre-halage, sur les jardins familiaux ou le parc Saint-Fiacre, mais interdiction d'aller sur le halage. Donc là, 9h15, c'est cette séquence-là. Et puis spécifiquement, donc, le parcours, on va dire, à partir du quai d'Alsace jusqu'au dojo Clarisse Abnéanou, donc jusqu'à 10h30, 10h35, eh bien, on va avoir donc ce cheminement qui va permettre, en fait, sur cette séquence d'un peu plus d'une heure, aller rencontrer les sites iconiques de la ville. On a voulu mettre en avant la rivière La Mayenne et pour cela, eh bien, les sports nautiques. Et donc, c'est le club d'aviron avec 8 de ses rameurs et rameuses qui emporteront la flamme pour entrer en Mayenne, d'une certaine façon, puisqu'on viendra la veille du Maine-et-Loire, eh bien, on aura cette entrée spécifique sur la rivière.
Et est-ce que des animations sont prévues à cette occasion sur la rivière ?
Alors globalement, il y a interdiction de navigation pour l'essentiel sur ce bief. En revanche, oui, on aura quelques animations, mais qui sont assurées par les clubs et donc qui sont pour le reste interdites. On ne peut pas venir avec son canoë personnel, par exemple. C'est plutôt des animations qui seront positionnées, mais au-delà du vieux pont, plutôt du côté du quai de Verdun ou encore du quai de Coubertin, pour parler simple, du parking de la piscine. Et c'est sur ce secteur-là qu'on pourra plus aisément percevoir à la fois le relais et le passage du relais de la flamme, mais aussi les animations qui seront proposées par le canoë-kayak, le triathlon ou encore le club d'aviron.
Est-ce que les scolaires seront présents sur le passage de la flamme ?
Ah oui, les scolaires seront en nombre, puisqu'on en a plus de 4000 qui sont prévus sur le secteur. Ils seront tous d'ailleurs, on va dire, prépositionnés, puisqu'on doit répondre à un certain nombre d'exigences en matière de sécurité. Donc toutes les écoles du pays de Château-Gontier vont pouvoir venir profiter de ce temps fort, de cet événement du passage de la flamme, mais aussi les collégiens, les lycéens. Et donc, on aura une grande partie de ces scolaires partout sur le parcours pour pouvoir apprécier cet événement un peu historique, puisque je rappelle que les Jeux Olympiques d'été, c'est que tous les 100 ans.
Et est-ce qu'on sait aujourd'hui qui sont les relayeurs, notamment sur Château-Gontier ?
Alors nous, la collectivité avec le département, on a désigné notre relayeuse. Donc c'est la judoka qui a participé 2 fois aux Jeux Olympiques, Vanessa Mbala. Mais on aura grosso modo une quinzaine d'autres relayeurs qui ne sont pas connus aujourd'hui. Ils seront sans doute connus à peu près 48 à 72 heures avant, voire parfois c'est des vraies surprises. Donc là aussi, on n'a pas encore le nom, par exemple, du premier porteur de la flamme en Mayenne. Mais là aussi, ça sera la surprise de Paris 2024.
Où consulter le parcours ?
Alors, en ce qui concerne le parcours sur Château-Gontier, il y a plusieurs supports qui seront disponibles. D'abord, via les réseaux sociaux de la collectivité, mais aussi les médias qui feront relais par le détail du parcours. Et puis, surtout, ce que je voulais évoquer, c'est que on aura pour tous les riverains qui sont directement concernés un flyer qui va être distribué pour indiquer évidemment par le détail le passage du parcours, mais aussi les enjeux sur le stationnement ou les interdictions de stationnement, parce que évidemment dans ce cadre on doit pour certains secteurs interdire le stationnement. Je pense en particulier aux promenades de la Résistance, aux promenades Maillet, qui vont être pour partie interdits à compter du mardi 28 début d'après-midi jusqu'au mercredi 29 midi. Voilà, donc il faut aussi prendre ces dispositions pour pouvoir organiser en toute sécurité cet événement important.
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, est-ce qu'on peut suivre l'événement à la télévision ?
Alors oui, ça aussi c'est une des spécificités, c'est qu'une des forces du relais de la flamme, c'est qu'elle est retransmise en direct et vous pouvez aller retrouver sur la plateforme de France Télévisions, sur internet, spécifiquement ce parcours de la flamme en Mayenne toute la journée. Et donc dès 9h15, vous pouvez vous positionner devant le petit écran, puis vous verrez un autre regard sur la ville et le pays de Château-Gontier.
Merci beaucoup Vincent Sonny.
Merci
et
à vous.
Et on va espérer que ce jour-là le soleil sera de la partie.
Mais il sera de la partie, partant du sud, il sera toujours de la partie.
Vous écoutez toujours l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier, 5.7 à Laval. Et on retrouve maintenant Donatien, c'est notre chronique du mardi. Écoutez.
À nouveau, Donatien déambule dans les rayons du supermarché. Ce n'est pas la première fois, évidemment. C'est régulièrement qu'il faut rebooter le contenu du frigo. Recette au lieu de reboot conviendrait peut-être mieux. En français, réinitialiser, c'est-à-dire recharger de jambon, de fromage, de yaourt, de beurre, le contenu du réfrigérateur qui, depuis quelques décennies, a abandonné le logo de la marque Frigidaire, créé en 1918, au profit d'appellations plus récentes comme Brandt, Bosch, Siemens, Electrolux, Thomson, n'oublions pas les prestigieux modèles Whirlpool et les plus accessibles Beko. On parle toujours des frigos et non des petits bécots pondus comme des œufs tout chauds et chantés par Brassens sur un poème de Paul Fort. On a ri, on s'est baisé sur les neneux et les nénés, dans les cheveux à plein bécots, pondus comme des œufs tout chauds. C'est peut-être cette ritournelle sur la marine que Donatien a dans la tête, tandis qu'il approche du rayon des boîtes de thon. Miettes de thon, thon entier, thon albacore et germont, assaisonné ou naturel, et ça vient de tous les pays du monde. Quelle boîte choisir ? Encore faut-il vérifier sur la boîte le poids. En effet, Donatien se méfie depuis qu'il a entendu à la radio et vérifié l'info dans les journaux, les marques de certains produits alimentaires s'ingénient pour maintenir leur marge à pratiquer la réduflation ou la shrinkflation. La réduflation ou la shrinkflation. Que signifient ces mots barbares ? Vous croyez acheter une plaquette de 250 grammes de beurre et il n'y en a que 200. Le roboratif 4 quarts subit la même perte de poids, passant de 250 à 200 grammes. La douzaine d'œufs devient simple dizaine. On pourrait multiplier les exemples. Le prix reste identique, mais la quantité de marchandises subit un régime amaigrissant pour donner l'illusion au consommateur de maintenir son pouvoir d'achat. Ainsi, la réduflation ou la shrinkflation caresse l'illusion de combattre l'inflation. Donatien serait plutôt adepte de la modération. Certes, l'inflation l'effraie comme tout le monde, et pour combattre l'augmentation de l'électricité, il s'est offert une bouillotte. Donatien, qui fut enseignant, mènerait bien un combat contre l'inflation dans un autre domaine, l'inflation des fautes, quand, sur le bon coin, les vendeurs rivalisent d'imagination pour torturer l'orthographe. En guise de remédiation, on pourrait pratiquer la lecture des étiquettes dans les différents rayons. La géographie avec les provenances, les mathématiques et la fameuse règle de 3 en faisant la chasse à la réduflation sur les cacahuètes, les spaghettis et la panna cotta. Enfin, on pourrait réviser l'orthographe avec le safran, le ketchup, le gazpacho, les capres, l'homos et le boulgour.
Tous les 100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe en rognant les tentacules des gardiens nos virgules. On voit alors nos gens de lettres, chacun proteste à sa fenêtre. Mes consonnes au nom du ciel, touche pas à mes voyelles. La réforme de l'orthographe mue pourtant éviter des baffes. Quand je tombais dans le panneau de charrette et chariot, le roi pourtant fut bien le roué, le François devint le français, et Molière mit aussi un Y à merci. Le véritable sacrilège serait de suivre ce cortège de vieilles lunes alambiquées et prises de compliquées. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité des baffes quand du tréfond de ma détresse j'oubliais toujours laisse. Croque-monsieur et tire-bouchon n'ont plus besoin d'un trait d'union. Croque-madame et tape-cul n'en auront plus non plus. Contre maîtresse et contre foutre, eux-mêmes ne pourront passer outre. Entre cuisses et entre chats, n'ont pas non plus le choix. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité des baffes. C'est les cuisseaux et les levrots qui me rendent des marteaux. Faudra aussi laisser quimper dans nos chères onomatopées ce trait unissant froufrou, yo-yo, ping-pong, trou-trou. On pourra souder nos blue jeans, nos ossobucos, nos pipelines. Vadémécum ex voto feront partie du lot. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité des baffes. Mettre un T au bout de la pas, que n'avais-je fait là? Et quand malgré nos vieux réflexes, on posera plus nos circonflexes sur maîtresse et enchaînée, on fera un drôle de nez. Mais les générations prochaines, qui mettront plus d'accent à chaîne, jugeront que leurs aînés les ont longtemps traînés. La réforme de l'orthographe contrarie les paléographes, depuis qu'un L vient d'être ôté à imbécilité.
C'était la réforme de l'orthographe de Pierre Perret. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Isabelle Rupin, merci à Donatien et merci à toi, Lucie. Et on commencera la soirée avec les sorcières.
Et oui, à 19h, il y aura Morgane qui nous raconte avec passion le dernier film qu'elle a vu au cinéma. Les sorcières sont aussi en phase avec les actualités sportives, avec Louane qui parlera des JO et de la flamme olympique qui passe bien sûr en Mayenne. Cécile et Florine viennent aussi avec une chronique en poche. Surprise, surprise, il faut être au rendez-vous à 19h.
L'émission suivante nous parle de rap français.
Et oui, à 21h, c'est Frères de chaussures, animé par Fatshu.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle agitée du local. D'ici là, prenez soin de vous et faites-le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini?
Quand elle dit au revoir, bah, c'est que c'est terminé.